Bon, vrai, le micro, là, j'étais tout mêlé dans mes boutons. On reprend. L'émission dans Jazz, l'émission du mercredi 12 août, là, je me disais, voyons, ça sort pas, cette affaire-là, là. Et voilà.
Parce que vous, vous l'entendiez pas, mais Jeff, ça faisait un bon 10 secondes qu'il parlait dans le vide.
Ouais, puis là, j'étais là, ouais, comment ça, ça sonne sourd de même dans mes écouteurs. Ben, voilà. Que veux-tu ça? Je peux plus mettre ça sur le retour de vacances parce que je suis revenu depuis déjà 8 jours ouvrables. Bah, c'est une erreur de manipulation.
Mais tu peux-tu le mettre sur le dos des vacances pendant 2 semaines?
Je pense que oui.
Ça marche-tu, ça?
Ah, j'ai arbitré trop décoqué tard hier soir.
Ah, bon, ben, on a trouvé ton excuse.
C'est une bonne excuse, hein? Ah, je suis content. On tire beaucoup de similitudes du côté de la politique, puis c'est pas juste moi qui le fais, c'est plusieurs analystes politiques entre ce que la CAQ est en train d'essayer de construire avec Christine Fréchette et ce que le PLC, c'est-à-dire le Parti libéral du Canada, a construit avec Mark Carney. C'est-à-dire un parti usé par le pouvoir avec un chef extrêmement contesté, et j'irais même jusqu'à dire détesté dans la population. Ce dit chef-là part, que ce soit Justin Trudeau ou François Legault, et là, le sauveur ou la sauveur arrive. Du côté du PLC, ça a fonctionné à plein régime. Mark Carney a réussi à se faire élire de façon minoritaire. Là, après ça, il entourloupa un peu la démocratie pour devenir majoritaire. Et là, bien sûr, on regarde les sondages au Québec. Mark Carney marche sur les eaux. Et là, hier, Mathias, tu vas nous résumer la nouvelle. Quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai dit « Quand la CAQ vient de sortir le... comment je dirais bien? L'action numéro 2 du Parti libéral du Canada dans le livre « Comment réussir à faire croire à la population que nous avons changé le... ». La première action, c'était de l'appeler équipe Christine Fréchette. Donc, de faire oublier complètement la CAQ. Et François Legault, le Parti libéral du Canada, a fait la même chose. C'était Mark Carney, Mark Carney, Mark Carney. Et là, la deuxième action clé, c'est la suivante, Mathias.
C'est partir en crise contre Donald Trump, c'est ça que je comprends.
L'ennemi juré.
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui a annoncé hier mettre en place 2 cellules de crise en raison des tarifs douaniers de 50% du président Donald Trump qui pourraient rentrer en vigueur dès le 19 août. L'objectif de ces dernières sera d'évaluer les répercussions que pourrait avoir cette nouvelle mesure américaine. Une première cellule se déroulera jeudi avec 12 organisations du milieu, entre autres de l'aluminium, de la foresterie et du secteur minier. La deuxième se déroulera celle-ci vendredi avec le milieu agricole. Les nouveaux tarifs qui pourraient toucher environ 7,7 milliards en exportations québécoises vers les États-Unis, soit environ 9 % de l'ensemble des exportations du Québec vers nos voisins du Sud.
Gabriel Giguère est avec nous, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, quand ça fait 8 ans que tu es au pouvoir, que la crise des tarifs, on s'entend, elle a commencé au mois de janvier 2025, on est rendu un an et demi plus tard. Me semble que tu n'as plus besoin de créer une cellule de crise pour gérer la crise tarifaire.
On comprend, là, puis tu l'as bien dit, Jeff, là, on essaie vraiment de pousser le personnage de l'avant pour être attractif sur le plan politique, là, vraiment reprendre le playbook qu'on a vu avec le PLC. Donc, il va falloir quand même, en tant que citoyen, juste analyser ça froidement puis comprendre que, certes, il y a une réelle menace avec les tarifs de Donald Trump, mais faire la part des choses quant au discours politique, à tout ce qui est politique puis à l'impact réel sur le plan économique. Parce que la réalité aujourd'hui, moins sur Christine Fréchette que sur les tarifs ici, c'est quand même que dans quelques jours, à peu près une semaine pour être précis, on pourrait voir une augmentation des tarifs douaniers au Québec, au Canada plus largement. Puis ça, bien évidemment, ça pourrait faire mal à l'économie.
Exactement. Cependant, moi, je pense qu'on avait quand même commencé un travail ou amorcé un travail qui nous amenait pas nécessairement faire le gros show de boucan de Donald Trump, le méchant, puis là, regardez, Christine Fréchette va venir nous sauver parce que, oui, les tarifs vont augmenter, mais c'est déjà envers des entreprises ou des secteurs qui sont touchés. Puis là, ici au Québec, on pense à l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre.
Oui, effectivement. Donc là, il faut toujours faire la part des choses. Il y a un réel impact économique. Il y a des entreprises qui sont déjà touchées. Il y a aussi une réalité où ces nouveaux tarifs-là, c'est quand même sur environ 9% des exportations. Puis c'est malgré le fait que ce soit couvert par l'accord libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, ça vient réellement faire mal. Après ça, il faut aussi être lucide dans le spectacle politique. Hein, on essaie quand même de créer un peu de peur pour dire, ben, regardez comment je deviens incontournable. Bon, quand on lit entre les lignes, on comprend que c'est entre le fédéral puis entre les États-Unis que ça va se régler, là. Donc, il faut aussi faire la part des choses. En même temps, c'est dommage, par contre, de voir que nos entrepreneurs, puis ça a été notamment mentionné par la FCEI, donc la Fédération des entreprises indépendantes du Canada, les entrepreneurs ici risquent de prendre un coup, malheureusement, encore une fois. Donc, on comprend aussi qu'on est dans un bras de fer là, du côté de l'administration américaine pour aller chercher un accord commercial avec le Canada.
Non, c'est clair que ça va faire mal dans plusieurs secteurs, notamment le bois d'œuvre, là, à l'heure actuelle, qui est un secteur très amoché par cette guerre tarifaire-là. Ceci dit, Gabriel, puis là, je suis certain que je te vole les mots de la bouche parce que tu collabores avec nous à chaque semaine. Une des mesures que Christine Fréchette devrait annoncer, c'est réduire le fardeau fiscal puis la réglementation de nos entreprises, ce qui est jamais envisagé pour le moment.
Ben, le problème aujourd'hui, puis on l'a vu là, c'est que le Québec est le champion de la réglementation, des obligations réglementaires pour la population et pour les entrepreneurs. Donc, si on voulait être plus sérieux du côté du gouvernement, c'est vraiment d'attaquer ce point-là. On a vu dans les dernières années que l'ancien gouvernement, hein, la coalition Avenir Québec, oui. Non pas celui de l'équipe Fréchette, vous voyez la petite blague évidemment, on a déposé plusieurs projets de loi à cet égard pour réduire la réglementation, mais les obligations réglementaires augmentent quand même. Donc, concrètement, il faut être beaucoup plus ciblé dans la réduction. Puis il faut également mettre un nouveau mécanisme, Jeff, qui je pense est incontournable aujourd'hui, c'est les clauses crépusculaires. C'est quand tu arrives de l'avant puis tu dis on va mettre une réglementation, mais elle a une durée de vie. Comme ça, on va être obligé d'en redébattre dans 5 ans et ça ne va pas simplement s'accumuler parce que l'entrepreneur, lui, peu importe le secteur, qui doit se conformer à ses obligations, ça lui coûte beaucoup d'argent en avocat, en administration et c'est des ressources qui ne peuvent pas être mises pour créer de la richesse, pour développer des partenaires commerciaux pour son entreprise. Donc, collectivement, on a moins de prospérité à cause du fardeau réglementaire actuel.
C'est clair. Moi, Gabriel, par contre, dans la colonne des plus, dans la colonne des positifs, je crois qu'on est vraiment dans un bon momentum pour négocier avec les États-Unis. Il y a une rumeur qui circule que les deux parties travailleraient fort pour présenter un projet d'entente à Donald Trump. Je pense pas que ça va être une entente finale, mais certainement un bon document de travail qui va nous permettre de faire cheminer les choses. Puis pourquoi je pense ça? C'est parce que Donald Trump en a plein les bras avec l'Iran. Puis là, il n'y a pas le choix. Faut qu'il y ait un gain en quelque part pour la population américaine. Et je le vois là, le gain stratégique pour Donald Trump.
Jeff, j'aime comment tu le présentes parce que j'ai l'impression que tu es dans un optimisme prudent. C'est-à-dire, oui, on est optimiste, on sent qu'il y a un momentum, on comprend c'est quoi les irritants de l'administration américaine. Il risque d'y avoir des concessions. J'espère, tu me connais, Jeff, j'en parlais souvent, que ce soit sur la gestion de l'offre, pas pour faire plaisir aux Américains, pour réduire la facture des Québécois puis des Canadiens. Fait que ça, tout le monde gagnerait. C'est le genre de compromis qu'on n'aura pas le choix. Sinon, on a un secteur du bois d'œuvre qui est étouffé par les tarifs douaniers. Puis même si, à la base, là, puis on le dit souvent, là, mais celui qui va payer les tarifs douaniers, c'est le consommateur américain avec des produits plus chers. Il en reste pas moins que nos entreprises du secteur forestier, entre autres, en arrachent. Fait que ça serait le fun de pouvoir réduire ces tarifs-là. Il va y avoir des compromis. Il y a un momentum. On espère que ça va de l'avant. Mais le côté prudent, de optimiste prudent, c'est quand même de dire que même s'il y a un accord qui est passé, c'est pas le temps de sabrer le champagne, là, parce que peut-être que dans 2 jours, on va déchirer du côté de l'administration américaine.
Ouais, c'est
faisons
ça,
attention.
Et en attendant là, tout ça du côté du Québec, est-ce que... C'est quoi qu'il faut s'attendre des deux cellules de crise de Mme Fréchette? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la première ministre sorte de là avec des mesures concrètes pour les entreprises?
Il y a là le problème, Mathias, c'est que cette cellule-là, il y a des éléments intéressants de comprendre, de chiffrer quel sera l'impact concret pour l'économie. Je pense que c'est important. Mais ensuite de ça, on comprendra que quand on accède directement au gouvernement, on va demander des subventions, probablement de la protection. Donc, on ne veut pas répondre avec plus de chèques parce que c'est le consommateur qui ne gagnera pas. Ça, il faut être clair. Maintenant, quand Jeff, tu parlais plutôt de la réglementation, de réduire la paperasse, il y a également des structures dans les politiques publiques où le bois coûte plus cher. Il y a tout ça qu'on pourrait réduire et qu'on doit réduire, c'est-à-dire lorsque l'État est dans les pattes, mais on ne veut pas un État qui va davantage donner plus de chèques parce qu'on comprend que ça va coûter plus cher aux contribuables, donc on ne gagnera pas collectivement. Alors, moins de fiscalité, moins de réglementation, certes, plus de subventions, absolument pas. Mais c'est ça le problème. Là, dans la cellule de crise, qu'on a l'impression, c'est que la proximité pourrait donner certaines tentations au gouvernement. Il ne faut pas aller là.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, on apprenait aujourd'hui que la guerre en Iran profite au gouvernement québécois grâce à la taxe sur l'essence en raison de la hausse des coûts du pétrole. C'est 50 millions de plus qui sont rentrés dans les coffres. Bon, on arrive en campagne électorale, t'es Christine Fréchette. Tu fais quoi avec ce 50 millions-là? Parce que, tu sais, 50 millions, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu pour un État. Donc, on joue ça comment?
T'as raison, Jeff, de le mentionner. C'est quand même conséquent, 50 millions, mais c'est un budget de plus de 150 milliards, là, donc on comprend quand même l'ordre de grandeur. Ce qu'on dit, c'est que d'ici la fin de l'année, on devrait être à 100 millions si la guerre en Iran ne se règle pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses, là, parce que tous les Québécois le vivent. À la pompe, ça coûte cher. Le fédéral a fait sa part en suspendant sa taxe d'assises, puis on verra comment ça évolue, parce qu'elle pourrait revenir d'ici 3 semaines, 4 semaines, mais au niveau provincial, il y a deux choses qu'on devrait faire, qui me semblent extrêmement clair. La première des choses, arrêtez de mettre la TVQ sur les autres taxes. Parce qu'on paye plus de... Ça, c'est ridicule. Première des choses. La deuxième chose, rapidement, je les vois venir, les politiciens, en me disant « Oui, mais tu sais, Gabriel, avec 8,6 milliards de déficit, c'est difficile de réduire le revenu. » Je le comprends. Mais il y a des leviers qui sont jouables. La bourse carbone au Québec... l'équivalent de la taxe carbone essentiellement fait en sorte qu'indirectement, on paye plus cher. C'est une taxe indirecte. Donc, on paye plus cher l'essence d'environ 8 à 11 cents le litre. Comment ça se fait qu'on ne fait pas juste suspendre le fait d'appliquer la bourse carbone aux raffineries, ce qui mécaniquement va réduire le prix aux consommateurs? Et ça, ce n'est pas directement lié à l'enveloppe générale du budget. C'est lié au fonds vert qui essentiellement sert à financer des patentes à gosses qui nous coûtent trop cher. Donc, on pourrait réduire le prix à la pompe, mais on décide de rien faire au sein du gouvernement du Québec.
Je suis tellement d'accord avec toi de le suspendre et non pas de l'annuler, comme le gouvernement fédéral a fait pour la taxe d'assises. Ceci dit, moi, je m'attends à ce que le gouvernement fédéral rendu au 7 septembre reconduise la mesure, là, à moins que Donald Trump ait trouvé un moyen de réouvrir le détroit d'Ormuz. Mais bon, ça, j'ai un négativisme très élevé. Alors, parce que veut pas, c'est encore des milliards de dollars de plus de profit pour le Canada. Là. Donc, le calcul qu'on a fait lorsqu'on a mis ça en avril va être encore bon en septembre.
Non, mais t'as raison. Tu sais, quand on le met de la. Quand le gouvernement Carney a décidé de la suspendre, c'est parce qu'on a vu une explosion des prix à la pompe. Donc, on s'est dit que ça risque d'être temporaire. Il y a beaucoup d'incertitudes là, dans cette crise-là. Je pense que depuis mars, donc dans les 5 derniers mois, on a dû entendre 45 fois que c'était fini, puis que finalement, aujourd'hui, on se parle, là, puis c'est pas fini. Là. Fait que ton optimisme assumé, plutôt ton pessimisme assumé, est totalement justifié. Fait qu'effectivement, le gouvernement fédéral, je pense qu'il risque de le reconduire, mais encore une fois, rien n'est fait. Je pense que le consommateur souhaite que ce soit conduit aussi parce que 10 sous, ça fait une différence. Ben bref, oui. Les gouvernements doivent être conscients que l'inabordabilité, certes, est liée à la guerre en Iran, mais les taxes contribuent fortement à cette inabordabilité artificielle.
Et le gouvernement du Québec qui se défend, de ce qu'on comprend, on n'a pas nécessairement prévu faire quelque chose avec ce 50 millions-là. On se défend en disant qu'on a déjà réduit les coûts d'immatriculation. Est-ce que c'est vraiment un équivalent? C'est vraiment suffisant?
Une réponse facile, j'ai envie de dire. Je le comprends, puis c'est pas faux. Mais pourquoi on joue pas avec l'autre levier? La question de la bourse carbone, pourquoi on aujourd'hui, le fédéral suspend sa taxe d'assises de 10 sous? Québec peut faire l'équivalent, peut-être pas avec sa taxe du carburant parce que c'est directement lié à son budget. S'il est capable de le faire, tant mieux, ce serait la bienvenue, mais au moins avec la taxe indirecte de la bourse carbone qui réduirait de 8 à 10 cents. Il y a pas de Québécois qui serait contre ça, là. Tu sais, parce que cet argent-là est envoyé pour des projets de gaz renouvelable qui coûte 5 fois plus cher que personne veut. T'sais, soyons sérieux, là. Laissons-le dans la poche des Québécois. Je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui quand le prix de l'essence est très élevé comme c'est le cas depuis des mois.
Gabriel Giguère, c'est toujours un bonheur de te parler. Merci de m'avoir confirmé que la CAQ joue dans le même livre de jeu que le Parti libéral du Canada.
Un bonheur partagé. Salut, JF.
Salut, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal, est avec nous à chaque semaine. On a fait le tour avec lui, justement, des derniers développements en ce qui a trait à cette guerre tarifaire. Donc, rien qui nous laisse présager que du côté... Ben, non, on a quand même un optimisme prudent avec le fait que là, Trump va avoir besoin de nous autres à un moment donné pour faire un gain en quelque part. On va voir qu'est-ce qu'on va perdre au change. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans un bon momentum, mais je ne crois pas qu'on va signer une entente finale cette semaine ou au début de la semaine prochaine.
Puis honnêtement, même si on signe pas d'entente finale, là, moi pour moi, les chances que Donald Trump mette réellement ses menaces à exécution restent basses. Là.
Ben oui.
Donald Trump, par le passé, même sans avoir de concessions réelles, a retiré ses menaces de tarifs. Mm-hmm. Je sais pas si vous vous en souvenez, quand il avait eu son trip de fentanyl, on a nommé un tsar du fentanyl, puis ça lui a suffi à retirer ses tarifs.
Fameux taco, là, Trump always checking out.
Ben exact. Fait que même si on donne pas de concession, la question est la suivante. Mm-hmm. Vas-tu vraiment mettre ses menaces à exécution cette fois-ci?
Mm.
Je pense que non.
J'en doute fortement.
On en jase.